Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.
Ce soir, on va parler des relations, puis on est autour d'un livre dans la Bible qui s'appelle le livre d'Esther. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre d'Esther. Je vois que tu es fatigué, je ne vais pas te demander de lever la main si tu l'as déjà lu. Mais si tu ne l'as pas encore lu, je vais te raconter rapidement ce qui se passe. C'est un livre qu'on a introduit la semaine passée dans notre sortie d'église. Et en fait, Esther, c'est un livre qui se situe 100 ans après un exil. C'est-à-dire qu'il y avait un peuple qui a été emmené de force dans une autre région. Et puis 100 ans plus tard, on a l'histoire d'Esther. Certains étaient déjà rentrés dans leur ville, étaient déjà rentrés dans leur région, déjà retournés à Jérusalem, d'autres sont encore en exil. Et on parle ici d'une minorité exilée qui se situe à Suse à ce moment-là, c'est la capitale de l'Empire perse. Et puis dans l'histoire, il y a un décret, il y a une décision qui dit on va exterminer tous les Juifs, tous ceux qui sont là, qui sont issus de l'exil, on va finir avec eux. Plus de eux, on les raye de l'histoire. Et c'est complètement flippant ce qui se passe. Et puis là, il y a une personne qui était sur le point de devenir reine, qui faisait partie des dernières prétendantes pour devenir reine, qui s'appelle justement Esther. Et elle va intervenir auprès du roi. Et en fait, le roi va abandonner cette idée-là d'exterminer un peuple à cause d'Esther. Mais Esther, avant d'être reine, elle était une orpheline. Et j'aime beaucoup dire ça parce que en fait, au cœur de cette histoire, ce qu'on voit, c'est que Dieu va utiliser une orpheline qui va devenir une reine et qui va sauver un peuple. Il y a quelque chose d'intéressant, j'ai envie de le reformuler pour toi en 2020, dans une ville d'influence, au cœur d'une société post-chrétienne, une minorité va avoir un impact et Dieu va donner une place d'influence à une orpheline d'origine pour que le projet divin continue. J'ai envie de te le dire, tu ne me crois pas, je te le dis de façon folle, je crois qu'il y a des Esther dans la salle. Je crois qu'il y a des gens qui sont ici. Qu'importe ton histoire, qu'importe ton background, Dieu a envie de t'utiliser pour son projet. Je ne sais pas si tu savais, depuis le début du monde, malgré ce qu'on comprend bien et ce qu'on comprend moins bien, Dieu est à l'œuvre. Ok, je vois que vous êtes vraiment surpris par ce que je viens de dire. Fou là. Dieu est à l'œuvre. Et comment Dieu fonctionne, c'est qu'il utilise des relations profondes et authentiques pour que son projet avance. Dieu a utilisé Esther et sa relation avec son père d'adoption, Mardoché, pour que son projet avance. Dieu veut utiliser ta vie pour que son projet avance, mais malheureusement, ta vie doit être en relation avec d'autres vies pour qu'elle puisse aller dans sa destinée. Je ne sais pas si tu savais ça. Dans le monde du business, on parle de mentorat. Et si tu parles avec des entrepreneurs et tu regardes, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont là, c'est qui mon mentor? C'est qui tes mentors? Tu sais, ça c'est en fonction de qui est ton mentor, ça donne une perspective de ta destinée. Dans l'église, on parle aussi de discipulat ou de parenté spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens, en d'autres termes, laisse-moi te poser la première question, est-ce qu'il y a des gens qui parlent dans ta vie? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu laisses parler dans ta vie pour qu'ils puissent dessiner avec toi ta destinée? Parce que tu as besoin de ça. Je sais, c'est choquant. On vit dans une ère tellement individualiste. Ton modèle à toi, c'est Superman, arrivé d'une autre planète, on ne sait pas trop comment, et puis il va sauver le monde tout seul, sans rien du tout. C'est une science-fiction. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Tu as besoin de gens autour de toi qui vont t'aider pour aller dans ta destinée. Et j'ai envie de te dire, la société a besoin de parents aujourd'hui. Je ne sais pas si tu le sais, c'est facile de faire un enfant, c'est difficile d'être un parent. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Je le répète parce que je vois que vous êtes encore un peu en train de vous échauffer ce soir. C'est facile de faire un enfant, c'est difficile d'être un parent. Et va demander aux profs dans la salle de quoi on a le plus besoin. Ils vont te dire de parents qui font leur job. J'ai aucun problème avec les enfants. Les enfants, c'est normal qu'ils ne comprennent pas tout. J'ai besoin de parents autour de ces enfants. J'ai besoin de parents qui vont donner un cadre à ces enfants. J'ai besoin de parents qui vont aimer ces enfants. On a besoin de parents dans la société. Parle avec les gens qui travaillent dans le social. Parle avec la police, tu verras, les parents démissionnaires, un grand problème dans notre société. Les parents, c'est des repères, il y a besoin de parents. Et l'histoire d'Esther nous montre comment une orpheline devient fille. De fille, elle devient reine. Et en tant que reine, elle peut changer la destinée de tout un peuple. Come on. Yves, c'est vraiment bon ce que tu dis ce soir. Je t'encourage toi-même, gars. Continue, c'est bon ce que tu parles. Le concept, il n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, si tu te posais la question. Ce n'est pas seulement une vieille histoire, ce n'est pas seulement une histoire unique, en fait. Dès le départ, dans la Bible, il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, tout le monde pense qu'on parlait de mariage. Faux. On parlait aussi de mariage, mais pas uniquement de mariage. Dieu dit la solitude, l'isolement, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que les gens fonctionnent avec du monde autour d'eux. Et on va le voir chez Jésus. Jésus qui était le meilleur des supermans que tu puisses imaginer. Va lire son histoire au passage. Tu verras que Jésus lui-même a décidé de s'entourer d'une équipe pour pouvoir faire avancer son projet. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, après Jésus, on voit un gars qui s'appelle Paul et qui le dit très clairement. Il va le vivre, il va le dire, il va écrire à des chrétiens, puis il va dire, hé, entourez-vous, regardez, je suis comme votre père, imitez-moi. Il va dire à d'autres ce que j'ai fait avec toi quand je t'ai pris sous mon aile, fais-le à d'autres, ils seront capables de le faire à d'autres. J'aimerais le résumer ainsi pour toi. Je ne sais pas ce que tu penses de ce que c'est que le christianisme, de ce que c'est que d'être un chrétien, mais j'aimerais te dire, être chrétien, ce n'est pas seulement écouter Dieu. C'est bien, continue, fais ça, c'est une bonne chose. Être chrétien, ce n'est pas seulement être en relation avec Dieu. C'est bien, continue ça, c'est une bonne chose. Être chrétien, ce n'est pas seulement obéir et faire ce qu'il te demande de faire. C'est bien, continue ça, c'est une très bonne chose. Être chrétien, c'est devenir des imitateurs de la façon de vivre de Jésus. Petit Christ, Christos, chrétien. Imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ avait des relations profondes dans sa vie. Pose-toi la question, est-ce que j'ai des relations profondes dans ma vie? Ça, c'est d'être chrétien. Être chrétien, c'est développer des relations profondes. Et je crois que si l'Église veut entrer dans ce que Dieu veut faire, elle doit être un lieu où des relations profondes sont établies, un lieu où des relations profondes sont cultivées, et un lieu, et ça c'est mon préféré, où les relations profondes sont multipliées. C'est bon que j'ai une relation profonde avec quelques-uns, mais il faut que cette relation profonde, elle se multiplie, que d'autres commencent aussi à avoir ça. Commande, un amen, c'est bon. La stratégie de Dieu pour faire avancer son royaume, ses projets, et là j'ai besoin de toi, écoute bien ce que je dis, la stratégie de Dieu pour que les cœurs brisés soient restaurés, pour que la société soit renouvelée, pour que les gens qui n'ont pas de but découvrent leur destinée, pour que les orphelins soient adoptés, cette stratégie repose sur des relations profondes. Dans ce cadre, parce que je sens que c'est de l'information jusque-là, il n'y a que moi qui vis ce que je dis. Dans ce cadre, j'ai donné quelques chiffres pour vous. Je l'ai donné la semaine passée et puis je les répète aujourd'hui parce qu'il faut que tu comprennes. Tu ne peux pas juste entendre et comprendre, tu dois te préparer. Laisse-moi, comprends ce que je suis en train de te dire. Je suis comme en train de te dire, il y a des enfants qui arrivent. Et ceux qui le savent, je suis papa là. Je suis papa quatre fois, d'accord? Je suis papa quatre fois, si tu te demandes. Donc, je sais ce que c'est que d'être parent. Je galère là-dedans. Quand tu apprends que ton épouse est enceinte, tu ne dis pas « chouette information ». Tu te prépares. Tu te prépares. Tous les bons parents se préparent. Tu fais une liste, tu fais une baby shower, tu fais un gender reveal, tu fais je ne sais pas quoi, tu fais ce que tu veux faire, tu te prépares. Là, c'est la même chose. Je suis en train de te dire, Dieu veut t'utiliser pour changer le monde. Il faut que tu te prépares. Alors voilà quelques chiffres. L'agglomération lausannoise, l'aire urbaine de la ville de Lausanne, en fonction de qui on parle de 65 communes et ça compte environ 450 000 habitants. On est proche du demi-million là. Si 15% devaient venir à Christ, si 15% disaient « j'aime bien l'idée de Dieu, j'aime bien ce qui se passe là », ça voudrait dire que 67 500 personnes. Tu vois le chiffre là? Tu comprends l'amplitude un petit peu? Si tu imagines qu'il faut un parent pour 5 enfants, et là j'ai 4 enfants, je sais ce que c'est, je ne parle pas des spirituels, mais 1 pour 5 c'est beaucoup. S'il y avait un parent pour 5 enfants, ça demanderait 13 500 personnes bien dans leur basket, qui savent où ils vont, qui connaissent leur relation avec Dieu et qui sont prêts à accueillir des gens dans leur vie et à parler dans la vie des gens. C'est beaucoup de monde, 13 500 personnes. C'est beaucoup de monde. Et j'ai envie de te dire, il y a besoin qu'on se prépare. Parce que des fois, on prie, Seigneur, Seigneur, il faut que tu touches mon collègue, Seigneur, c'est trop beau, l'amour que j'ai avec toi, il faut que tu touches mon voisin. Puis en fait, le Seigneur est en train de te dire, moi, j'aimerais que tu te prépares. Parce que le jour où je touche son cœur, c'est toi qui vas devoir marcher dans sa vie. J'ai aucun problème de toucher la vie de personne. Tu sais, Dieu n'est pas limité, il n'a pas de problème de toucher la vie de quelqu'un. Mais Dieu veut fonctionner avec toi, son projet avance avec des relations. Donc, pendant que tu pries, prépare-toi. Il faut que tu comprennes, ça c'est vraiment ce que j'ai vécu moi. Jay, mon épouse, incroyable, me dit, Yves, je suis enceinte. Seigneur, aide-nous. Google, comment faire quand on devient parent? Maman, papa, qu'est-ce que je dois savoir que je ne savais pas? Comment on va accueillir ça? Seigneur, donne-nous de la force. Un ami qui est parent, mon frère qui est parent, qu'est-ce que je dois comprendre? Juste après, Seigneur, s'il te plaît, enlève l'égoïsme qu'il y a dans mon cœur. Juste après, cours de préparation à l'accouchement. Je me prépare et je prie. Et des fois, j'ai l'impression que dans l'église, on prie beaucoup, on ne se prépare pas du tout. Seigneur, change le monde, change le monde. Et rien du tout ici. Et le Seigneur est en train de te dire, je vais changer le monde quand tu te seras préparé. Parce que j'ai besoin de toi quand le monde sera touché. Merci, Bi. 13 500 personnes. Et ce qui me brise le plus le cœur, c'est que je ne parle même pas des gens qui sont dans l'église, mais qui sont comme des orphelins dans l'église. Si 15% étaient touchés, ce serait plus de 13 000 personnes, sans parler des gens qui sont seuls dans l'église. Et il y a des grandes possibilités que tu sois seul dans l'église. Et je sens que Dieu nous dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Christine Kane, qui est en train avec une, qui a une œuvre qui s'appelle A21, A21, elle se bat pour abolir l'esclavage moderne dans le 21e siècle. C'est une noble cause, n'est-ce pas? Elle a dit, il faut que le dernier commandement de Jésus redevienne une priorité pour son Église. Il faut que le dernier commandement de Jésus redevienne une priorité pour son Église. Le dernier commandement de Jésus, je te le donne parce que je ne suis pas sûr que tu le connaisses. Allez, fais de toutes les nations des disciples. Il faut que ça devienne une priorité. Il y a du job, on doit se préparer et on ne peut pas simplement prier. Quand on regarde la vie d'Esther et Mardoché, c'est ça qu'on voit, puis on trouve des clés. Alors j'ai envie de t'inviter à lire cette histoire-là, même si tu ne viens pas la semaine prochaine ou pas, je finirai sur ça la semaine prochaine, mais qu'importe que tu viennes ou pas, lis cette histoire, regarde à quel point les relations profondes changent le monde. Ce soir, on va juste regarder rapidement 4 P du discipulat. 4 P du discipulat. C'est comme des clés quand tu veux marcher en tant que disciple et faire des disciples. Et je crois que c'est l'appel de tous les chrétiens. Tu ne connais pas ta destinée, tu ne connais pas la raison d'être, tu ne connais pas ton appel, tu ne connais pas ta vocation, mais tu as un truc qui est clair. Dieu t'a dit, fais des disciples. Tu n'as pas besoin de me poser la question, est-ce que ça me concerne, ça ne me concerne pas. Je crois que ce n'est pas pour moi. Ça. Non, non. Il y a des choses qui sont claires. Aime les gens. Ne me demande pas si c'est nécessaire ou pas. Tu dois aimer les gens, même ceux que tu n'aimes pas encore. Faire des disciples, c'est aussi pour toi. Comment j'ai des 3 petits amen. Vous êtes vraiment bizarre aujourd'hui. Il faut vous mettre ensemble là, je ne sais pas. Coordonnez-vous un peu. Ok, premier P. On va regarder un passage et puis ensuite je te donne ce P. Esther 2, les versets 10 et 11. Esther n'avait révélé ni son peuple, ni sa famille d'origine, car Mardoché le lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Là, il faut que tu comprennes qu'on te parle d'Esther quand elle est adulte, quand elle est sur le point de devenir reine, et on nous dit qu'elle ne va pas révéler son origine parce qu'elle obéissait à son père. Je ne sais pas si tu comprends ça. C'est comme si aujourd'hui, je te demande, pourquoi tu ne fais pas ça, toi? Et tu me dis, ah, mon père m'a dit que ce n'était pas bon. La plupart d'entre vous, vous êtes même en rébellion contre vos parents. Encore maintenant. Je fais comme je veux. Et au verset 11, regarde l'attitude du papa. Chaque jour, il se rendait à la cour du harem pour savoir comment elle allait. J'ai envie de te... Imagine ton père qui vient te voir chaque jour. Ça va chez toi? Oui. Je suis parti de la maison pour qu'on arrête de se voir autant. Cesse de venir me voir. Le premier P que j'aimerais que tu réalises, c'est celui de la poursuite. Poursuite, poursuivre. Mardoché a poursuivi Esther, même quand elle était devenue adulte, même quand elle commençait à voir, Mardoché a continué d'aller chaque jour. Il allait voir comment ça allait. Il continuait dans la relation. Puis c'est important parce qu'on est un peu dans une culture suisse. Qu'importe ce que tu estimes ou pas, si tu vis ici depuis quelques années, tu as été un petit peu chépé par ces quelques années. Brandon, qui a pris la parole avant, il parle franglais. Et depuis le temps qu'il est en Suisse, il a été un peu chépé par cette réalité. Et dans la culture suisse, écoute bien, dans la culture suisse, on a peur de déranger. Dans la culture suisse, on ne veut surtout pas déranger. Je ne vais pas, tu sais. S'il a envie de me parler, il viendra me parler. Je ne vais surtout pas aller le déranger. J'ai l'impression qu'il est triste, mais je vais le laisser triste seul. Parce que s'il a envie de sortir de sa tristesse, il viendra me le dire. Puis j'ai envie de te dire, il y a un problème avec ça, parce que si on reprend le point de départ, qu'on est des orphelins, les orphelins, je ne sais pas si tu as déjà été dans un orphelinat, si tu as déjà rencontré des familles d'accueil, des gens qui ont adopté, mais la vérité, c'est que les orphelins mettent en place des mécanismes de défense. Ils ne sont pas capables de venir te demander de l'aide. Ils sont en mode survie. Il faut que tu comprennes ça. Les enfants qui ont manqué de figure parentale, souvent ils sont difficiles d'accès. Souvent quand tu les vois, ils ne vont pas te faire confiance tout de suite. Ils ne vont pas être d'accord de te faire confiance. Ils vont souvent te tester pour voir si tu vas rester. Les profs connaissent ça. Ils te testent pour voir juste est-ce que vraiment tu m'aimes. Est-ce que vraiment tu m'aimes. Est-ce que vraiment tu m'aimes. Ils vont te repousser parce qu'ils ont peur d'être repoussés. Donc, si tu mets ça ensemble, c'est-à-dire que quelqu'un arrive à l'église, il a encore des mécanismes de défense. Quelqu'un commence à connaître Jésus, il a encore des mécanismes de défense. Toi, tu dis, je vais laisser qu'il vienne vers moi. Non, poursuis-le. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Si tu veux être un parent spirituel, si tu veux devenir un mentor, si tu veux avoir ce type de relation, il faut que tu ailles chercher la relation. Il faut oser chercher la relation. Et écoute, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que tu es un peu triste. Est-ce que tu serais d'accord qu'on prenne un café ensemble? Et regarde, je ne suis pas sûr, j'ai entendu dire que tu avais réussi tes examens. Laisse-moi t'offrir une petite bouteille de champagne. Quoi? Pourquoi? Mais t'es qui? Mais mécanisme de défense. Écoute, je ne suis personne, mais je crois en toi. Bravo pour tes examens. Just well done. Il faut célébrer. Les gens sont mal à l'aise en Suisse quand on leur dit joyeux anniversaire, tu sais. C'est pas ta faute, c'est juste né. Accepte qu'on te dise joyeux anniversaire. Juste accepte, arrête là. Et non, on dit non, faut pas trop les déranger, faut pas trop. Chaque jour, Mardoché, il allait prendre des nouvelles d'Esther. Je sais pas si tu comprends cet engagement-là. Chaque jour, il allait à pied. Comment tu vas, Esther? Est-ce qu'on te traite bien? Est-ce que tu manges bien ici? Est-ce que ça va? Fais attention avec ces gens-là. Il continuait et continuait. Il y a un coût dans la relation. Et au départ, souvent, c'est le parent qui paye le prix. Mais le problème, c'est qu'on a trop de parents qui ne veulent pas payer le prix. On a trop de parents qui ne veulent pas poursuivre la relation. Alors il me dira s'il a besoin. Je lui ai demandé l'année passée comment il allait, depuis il ne m'a rien dit. Donc une fois, je l'ai encouragé. Ah, on est en Suisse, alors le meilleur, encourage-le pas trop, il va prendre la grosse tête. C'est encourage-le, son problème c'est la grosse tête. Toi, ton problème c'est encourage-le. S'il prend la grosse tête, c'est son problème à lui, ce n'est pas ton problème à toi. Encourage-le. Hey, bien joué. Hey, c'est génial ce que tu fais là. Hey, je ne savais pas que tu étais capable de faire ça. Vas-y encore. Hey, on croit en toi. Je ne sais pas si tu sais combien tu as besoin d'entendre ça dans ta vie. Tu as besoin d'entendre ça dans ta vie. Tu as besoin de le dire dans la vie de quelqu'un. Quand je regarde la vie des bébés, la vie des parents, je connais ça un petit peu. Je peux t'assurer que c'est les parents qui payent le prix. Les premiers mois, tu payes cher. Le bébé qui dort différemment. L'allaitement, les pleurs. Mais je ne connais aucun parent qui dit, bon, il pleure, je vais le laisser pleurer. Quand il aura fini de pleurer, il viendra me dire. Non, je poursuis la relation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure? Je me souviens de cette histoire. Elisha était tombée malade. Elisha, c'est ma grande fille, ma première. Elle était tombée malade. Et je me souviens, Janet m'a dit, il faut que tu restes à la maison. Et je dis, ok. Et le milieu de la matinée, j'ai appelé Janet. Incroyable. Elle dort. Parfait. Je fais mes trucs depuis la maison. Cool. Milieu de l'après-midi. Elle dort toujours. C'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je la réveille. Parce qu'un bon père, il poursuit la relation. Hey, comment ça va? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Où est-ce que t'en es? Tu m'avais parlé de ce projet. Ça avance, ce projet? Poursuis la relation. Poursuis la relation. Je me rappelle quand mon père était avec moi. Mon père, un merveilleux exemple, un de mes héros. Et vous vous souvenez pas de ça, parce qu'il y en a beaucoup, vous êtes trop jeunes. Mais à l'époque, en secondaire, on passait en sixième. Okay, Aujourd'hui, secondaire, 8e, 6 plus 2, je ne comprends rien. À l'époque, on disait juste, tu vas en 6e, voilà. Et quand j'arrivais en secondaire, je me souviens, tu sais, parce qu'en tant qu'enfant, tu n'aimes pas quand ton père te poursuit, tu as des mécanismes de défense. Et je me souviens à mon père, Yves, c'est ta rentrée, je t'accompagne à l'école. Quoi ? Non. La honte, puissance 10 000, ne m'accompagne pas à l'école. Plus personne, je crois que, écoute, plus personne n'accompagne ses enfants à l'école. C'est un truc d'une autre époque, écoute, on fait plus ça. Et mon père, non, je t'accompagne à l'école, laisse-moi t'accompagner à l'école. Et je suis là, ok, mais alors s'il te plaît, tu ne mets pas la honte. Idéalement, tu ne parles pas, tu dis rien, tu marches juste, c'est tout. Et on va, et je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais moi, c'était important d'être cool. Donc, j'avais les sneakers qu'il fallait, j'avais la veste qu'il fallait, j'avais le sac qu'il fallait. Et j'étais cool et je voulais aller. Et puis, on arrive vers l'école, on arrive vers le préau. Je dis à mon père, écoute, prends un peu de distance. Là, c'est... Les gens pourraient croire, on se prend la main et tout. Non, écoute, marche là. Mon père dit, non, mais je t'accompagne jusqu'à ta classe. Non, tu ne parles pas à ma prof. C'est la honte, je suis le gamin, le seul qui a son père qui dit à sa prof des trucs. Non, dis rien. Et mon père m'a accompagné à distance. Il a juste dit à ma prof, je suis son père, bonne journée, bonne rentrée, il est parti. Mais tu sais comme c'est un héros, mon père, quand je suis rentré à la maison, il m'a dit comment c'était l'école. Il savait que je mettais en place des mécanismes de défense. Il savait que j'étais en train de me former, que j'avais besoin de ça. Mais il a continué à poursuivre la relation. Comment c'était l'école? Et comment ça se passe avec tes camarades? Ça a été pour rentrer? Il a continué à poursuivre la relation. Tu sais, j'aimerais qu'on voie ça dans l'église. Parce que si tu mets ça dans l'église, au premier mécanisme de défense, tu dis, oh, si je réagis comme ça, alors moi aussi je réagis comme ça. Imagine si mon père avait fait ça. Oh, mais si c'est comme ça, alors j'arrête de faire la lessive. Mais on fait ça dans l'église. Tu vas vers quelqu'un, tu dis, hey, écoute, j'ai l'impression que tu es un peu triste. Non, c'est bon, merci, de quoi tu te mêles? Et là, c'est fini. Ben, si c'est comme ça, alors en tout cas, alors si les gens réagissent comme ça ici, moi, je ne veux plus rien savoir à faire. De un, ce n'est pas les gens, ce n'est pas une règle, là, c'est une personne qui a fait ça. De deux, peut-être c'était un mauvais jour, peut-être c'était une mauvaise situation. Arrête, là, c'est bon. Il faut que tu sois bien dans tes baskets, ce n'est pas grave. Écoute, hey, je ne voulais pas te déranger, je vois que je t'ai dérangé, je m'excuse. Des fois, il y a des gens qui me disent, il n'y a personne. Tu as essayé avec combien de personnes? Une. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre, tu sais. Va regarder avec quelqu'un d'autre, tant pis. Les parents poursuivent leurs enfants par amour. Est-ce que dans l'église, on poursuit les gens par amour? C'était mon premier P. Si tu veux rentrer dans ce genre de relation, il faut que tu poursuives ce genre de relation. Mon deuxième P, très important, il faut la permission. On poursuit, oui, mais on demande la permission. Tu ne peux pas t'imposer dans la vie de personne. C'est hors de question que tu t'imposes dans la vie de qui que ce soit. Très souvent, on pense à la dimension apprenant, apprenti et prof. Et on a un peu cette image pour apprendre. Donc si moi, je deviens le mentor de Brandon, c'est-à-dire que Brandon doit recevoir toute la sagesse de ma part, ça veut dire qu'il doit comprendre à quel point j'ai plus de révélations sur la Bible. Et puis à chaque fois que Brandon arrive, je dis, tu sais, il semblerait que en grec, en fait, ça veut dire... Et après, je dis à tout le monde, j'ai un disciple. Ça n'a rien à voir avec ça, le disciple-là. Rien. Rien à voir avec ça. Ça, c'est avoir la grosse tête. Ça, c'est mal comprendre ce que Dieu te demande de faire. Le disciple-là, ce n'est pas déverser tout ton savoir dans la vie de quelqu'un d'autre. Ton premier devoir, c'est d'aimer. Ton premier devoir, c'est d'aimer. Ton deuxième devoir, c'est d'espérer, de croire et de rester là. Pour partager ta sagesse, pour parler dans la vie de quelqu'un, il faut la permission. Deuxième P, permission, extrêmement important. J'aime bien dire ça comme ça, on ne demande pas le droit d'aimer. J'ai envie de te dire, même si tu es rentré là, je t'aime déjà. Je ne te connais pas encore, je t'aime déjà. Même si tu n'étais pas rentré là, je t'aime déjà. Je suis un gars comme ça, bizarre. Parce que je crois que si tu es sur terre, c'est que tu es fait à l'image de Dieu et que Dieu t'a désiré et du coup tu es digne d'être aimé. Ce que toi, tu penses de ça, ça m'est complètement égal. J'ai pas besoin de ton autorisation pour t'aimer. Mais ça reste juste là. Je peux rien faire d'autre si tu m'autorises pas. Si j'ai pas la permission, je peux rien faire d'autre. On demande pas la permission pour aimer, mais on demande la permission pour parler dans la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas parler dans la vie de quelqu'un s'il n'y a pas la permission. J'ai un exemple que j'aimerais te donner, puis j'en ai parlé avec lui, je lui ai demandé le droit d'en parler. Cet exemple, c'est un gars qui s'appelle Mathieu, qui est là, plusieurs, vous le connaissez. Et je calculais ensemble, ça fait presque 10 ans qu'on chemine ensemble. À cet hiver, ça fera 10 ans qu'on s'est rencontrés et puis qu'on a commencé à cheminer ensemble. Et c'était en camp, et j'étais dans une forme de responsable pour lui. Et puis à la fin du camp, il m'a dit, est-ce qu'on resterait en contact? Est-ce qu'on pourrait rester en contact? Et j'ai dit, aucun problème, on reste en contact. On s'est parlé de temps en temps au téléphone, on s'est vu de temps en temps, on a pris un peu de temps ensemble. Et je me souviens le jour où il y a eu un shift dans notre relation. Je me souviens exactement, on était à Yverdon, un repas ensemble, il y avait eu quelques téléphones un peu rapprochés, puis en fait il vivait une situation difficile. Dans son église, il y avait une division qui prenait place, il y avait des désaccords entre les responsables, et lui il était là au milieu de ça. Et je me souviens que ça a commencé, notre relation a pris un autre tournant à ce moment-là. Parce que je me souviens qu'il a commencé à me poser des questions différentes. Jusque-là, j'étais juste à l'aimer, juste à être présent. S'il voulait me parler, j'étais là pour parler. Peu de choses que j'ai pu dire ou quoi, qui vraiment... Mais à partir de ce moment-là, ça a changé. Qu'est-ce que tu penses de cette situation, Yves? C'était lui qui me demandait de parler dans cette situation. Qu'est-ce que tu crois de l'Église, alors, si c'est ça, l'Église? Qu'est-ce que tu crois des responsables dans l'Église, si on vit des choses comme ça dans l'Église? Et là, j'ai commencé à parler. Et ça a amené la suite, c'est le plus beau. Ça a emmené un téléphone avec Mathieu, il m'a dit, j'ai rencontré cette fille. Qu'est-ce que tu penses de cette fille? Faudrait que je la voie déjà. Mais non, je lui dis, mais comment, c'est qui cette fille? Qu'est-ce que t'aimes? Elle est incroyable, comme elle rigole et tout ça. Je dis, ok, ça commence. Puis on les a accompagnés, puis on les a mariés, puis on est toujours là dans leur vie, mais on l'a fait parce qu'ils nous ont donné la permission. Et si j'en parle ce soir, c'est parce qu'il m'a donné la permission. C'est important d'avoir ce genre de relation, c'est important de désirer ce genre de relation, c'est important de poursuivre ce genre de relation. Mais tu ne peux pas entrer dans ce genre de relation sans permission. Ça m'arrive souvent de demander, est-ce que vous êtes d'accord que je parle de ça? Est-ce que tu es d'accord que je te challenge par rapport à ça? Si la personne me dit non, c'est ok. Pas de problème, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Sache que je t'aime, c'est bon. Est-ce que tu as déjà demandé à quelqu'un la permission de parler dans sa vie? Parce que je connais plein de gens ici. Vous avez plein de choses à dire. Mais si on ne vous a pas donné la permission, taisez-vous. On ne t'a pas donné la permission, tais-toi. Et ne va pas te cacher derrière l'histoire de « Non, tu sais, moi je veux faire du discipulat, donc j'ai vu quand tu es entré. » Non, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas la permission. Et c'est important. Parce que si on ne vit pas ça, le problème c'est qu'on crée des nouveaux mécanismes de défense. Il y a des gens qui n'ont plus personne qui parle dans leur vie parce que des gens qui n'avaient pas la permission ont parlé dans leur vie. Donc maintenant, ils sont là, non, plus jamais ça. Plus jamais ça. J'ai quelqu'un qui est venu, là, il m'a dit des trucs. Je ne sais pas d'où il sortait, je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas pour qui il s'est pris. Je ne veux plus de ça. Des relations profondes changent le monde, les amis. Et pour des relations profondes, il faut de la poursuite, il faut la permission, il faut aussi la présence. Un des plus grands défis quand on pense à ces relations qui changent le monde, quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus prendre le temps. On ne sait plus juste être présent. On est dans une société tellement motivée par les résultats en termes de chiffres que je connais des gens chrétiens qui veulent beaucoup de disciples, comme si c'était un gage de plus grande qualité. C'est complètement à l'opposé de ce que Jésus a fait. On a l'impression que si je ne gagne pas tout de suite quelque chose, je perds mon temps. Je suis en relation avec toi pour ce que tu m'amènes en fait, mais si tu ne m'amènes rien, qu'est-ce que je fais là en fait? Écoute, ça fait quand même 3 cafés qu'on discute. Il ne m'a pas encore donné la permission, je ne sais pas ce que je fais. On doit apprendre à être présent, même si on a l'impression de ne rien avoir à gagner. Être présent simplement parce que c'est important d'être présent. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une angoisse profonde dans la génération qui arrive. Une pression à faire, une pression à faire mieux que les parents, parce qu'on a une société qui ne semble pas aller dans le bon sens, puis on a des choses à régler. Une pression à produire, une pression à trouver un partenaire, une pression avec le temps. C'est de la folie, les jeunes, ils ont même pas fini l'école, ils sont déjà dans des burn-out, ils sont déjà dans des stress, déjà dans de l'anxiété. Ils ont même pas commencé la vie et qu'ils sont déjà là-dedans. Et ils ont besoin de gens qui vont juste être capables d'être présents. Je suis là pour toi. Mardoché, il a été clé dans la vie d'Esther, pas quand elle est devenue reine. Il était là bien avant, il était présent bien avant qu'elle ait un rôle à jouer. En fait, je crois même, Mardoché, il était présent parce qu'il avait compris ça, il ne savait même pas pourquoi. Il y a un moment donné dans l'histoire, il faut que tu lises Esther, c'est 10 chapitres, c'est court. Il y a un moment donné dans l'histoire où Mardoché dit, et si ce n'est pas pour une chose comme ça que tu es là? Et moi, je suis sûr, et si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es là? Je suis sûr que Mardoché, il a découvert à un moment donné, c'est ça ta destinée. Jusque-là, j'étais juste ton père, j'étais juste content d'être là, j'étais juste à t'encourager, à donner des conseils, je ne savais même pas pourquoi. Mais maintenant, je comprends. Mais je vois ce stress chez certains jeunes dans l'église, j'ai été pasteur jeunesse, je vois ce stress. 17 ans, c'est quoi mon appel? Gars, j'en sais rien en fait. Moi non plus, je ne le savais pas à 17 ans. 18 ans, elle est où ma femme? No idea. Ça fait 2 ans que je suis à l'église. Pourquoi j'ai pas de travail? I don't know. Par contre, je vais être là. C'est pas pour ce que tu vas gagner, c'est pas pour ce que tu vas avoir, c'est pas pour ce que je vais gagner, je vais être là. Et d'un coup, j'entends quelqu'un qui m'appelle. J'ai vu une fille. Ah, peut-être c'était pour ça. Des fois, je me sens vieillir ces temps. J'ai l'impression des fois d'être comme un grand-père. Il y a les gens qui veulent me voir et je suis là. Ils viennent, oh, faudrait ci, faudrait ça. Et je les regarde. Tu veux un thé? On a aussi des biscuits, je crois. Tu veux quelque chose? Et je vois les gens, ouais, mais tu comprends, mais si, mais ça. Je comprends. Mais j'ai aucune réponse pour toi. J'ai aucune sagesse pour toi. Mais j'ai de la présence pour toi. Je peux être là. Et si seulement vous compreniez à quel point ça fait la différence, la présence. Je suis papa, je te donne juste cet exemple par rapport à la parenté, mais c'est de la folie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et aujourd'hui, quasiment tous les spécialistes disent les enfants ont juste besoin que les parents soient présents. Les parents, ils sont là, ok, il faut que j'aie les jeux là, il faut que j'aie la poussette comme ça, il faut que j'aie le truc comme ça, il faut que j'aie l'application comme ça, il faut que... Et pendant qu'ils sont en train de rechercher tout ça, il y a les enfants qui sont juste en train d'attendre. Puis tu rentres du travail, puis tu as ton travail dans la poche parce que ton travail, il est sur son téléphone portable. Puis tu es avec ton enfant, mais en même temps, tu essaies de voir la dernière nouvelle et puis de savoir aussi, puis répondre à un mail et tout ça. Puis en fait, si tu étais juste présent avec ton enfant, ça ferait toute la différence. J'ai envie de dire, on doit réapprendre à être des gens présents. Certaines personnes qui sont ici, qui sont dans l'église, ça fait plus de 10 ans qu'on est là. Plus de 10 ans qu'on est là. On a œuvré ensemble, on a ri ensemble, on a organisé certaines choses ensemble, on a loué ensemble, on s'est aussi disputé, on a été challengé. Mais tout du long, on a juste dit, on est là. Puis certains, c'est clair, ils foncent, ils savent où ils vont. Puis d'autres, c'est moins clair. Mais ça ne change rien à notre présence dans leur vie. On est là. Est-ce que tu es prêt à être présent dans la vie de quelqu'un? Merci. Comment? Une qui s'est réveillée. Il ne reste plus que 2 minutes dans le message. J'essaie depuis. Certains sont rassurés, mais en fait, il reste un poil plus. Est-ce que tu es prêt à juste présent dans la vie de quelqu'un? Et ma deuxième question, est-ce que quelqu'un est présent dans ta vie? Est-ce que quelqu'un est présent dans ta vie? Je veux qu'on puisse vivre des relations qui vont changer le monde. Je crois qu'il y a des Esther qui ont leur destinée, qui est en stand-by parce qu'il leur faut un Mardoché dans la vie. Je crois qu'il y a des gens qui doivent devenir des Mardochés. Mais ça demande la poursuite, ça demande la permission, ça demande la présence. Et ça demande mon dernier P, la patience et l'engagement. Ça va avec la présence, mais je vais t'en parler un tout petit peu. Je crois que c'est vraiment un défi aujourd'hui et vraiment une angoisse aujourd'hui, la patience. On flippe d'être patient. Tu prends ton premier job et puis t'es là. je pense que je peux m'engager pour 2 ans, 2 ans et demi. Et des fois, on fait comme ça dans les relations. Je peux être ton pote pour, écoute, semaine prochaine? Après, on verra, tu sais. On se marie, mais on fait des contrats renouvelables au cas où. Et on ne sait plus juste dire, je vais m'engager avec toi. Je vais être patient et je vais m'engager avec toi. Dire, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. Je ne sais pas où tu seras, je ne sais pas ce qui va se passer, mais tu peux compter sur moi. On ne peut pas juste venir pour les choses qu'on veut. Là, je vais te challenger un petit peu, Église. Tu ne peux pas juste venir pour les choses que tu veux. Tu ne peux pas juste venir pour, ok, c'est sympa ici, j'aime bien la musique, j'aime bien... Non, non, non. Est-ce que tu vas être présent? Est-ce que tu vas être patient? Est-ce que tu vas t'engager? Est-ce que tu vas rester pour le long terme? J'aime bien dire, faire du discipulat, ce n'est pas faire de la formation professionnelle. Des fois, à l'église, on a mal compris ça. On se dit, alors, moi, je suis pasteur, donc je vais faire du discipulat avec quelqu'un qui va devenir pasteur après moi. Rien à voir. Je ne suis pas en train de faire de la formation professionnelle. Je ne suis pas en train de le préparer de pasteur. Je suis un parent dans sa vie. Il y a des choses qu'il va faire complètement différemment. C'est complètement OK. Je vais me tenir avec toi. J'investis en toi, pas pour ce que tu peux m'apporter, mais parce que je crois en toi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est plus habitué. J'investis dans ta vie, même si je n'ai rien comme retour sur l'investissement. Je vais me tenir dans ta vie, même si je n'ai aucun retour. En fait, être patient et s'engager, c'est dire, je veux m'occuper de toi pour que tu puisses entrer et devenir ce que Dieu veut pour toi. Et ça, les amis, c'est un des prix les plus grands à payer. On est dans une ère où on veut tout tout de suite, on veut tout maintenant, puis on ne réalise pas que les bonnes choses prennent du temps. Je vous l'ai dit, Janet, elle est enceinte. Purée. La grossesse, ça t'apprend quand même la patience, là. Je la vois et des fois, je lui dis, comment ça a été ta journée? Elle me dit, longue, longue. Souvent, quand tu parles avec des gens qui ont leur premier enfant, la première chose qu'ils réalisent, c'est, purée, je suis impatient. Moi, j'ai eu Elisha et je ne connaissais rien à l'histoire des parents et tout ça. Enfin, je pensais connaître, et puis j'ai eu Elisha, puis je me suis rendu compte que je ne connaissais rien. Et je me rappelle, Elisha, elle est née, j'étais là, yes, mon premier enfant, tu sais, un peu comme c'est mon accomplissement. Je suis imbattable, personne ne peut être meilleur que moi, je vais être le meilleur père, je vais lui apprendre à parler, on va lire, on va disserter de la philosophie, on va faire du basket, on va danser, on va rigoler, elle va aimer de la bonne musique, et... Je rêvais la fois. Je me rappelle encore sur la fenêtre à l'hôpital. Elisha. Je suis entré à la maison. Elisha, je prenais du temps, je la changeais. Une semaine plus tard. Pourquoi tu parles pas? Papa. Papa. Un mois plus tard. C'est normal qu'elle ne marche pas encore? 3 mois plus tard. Elle fait toujours pas assez de nuit? Et à un moment donné, j'ai appris, ok, Yves, ce n'est pas ton rythme à toi. Tu laisses tomber tout ça. Tu laisses tomber tes attentes. Tu laisses tomber ce que toi, tu aurais voulu. Tu laisses tomber tout ça et tu l'accueilles et tu l'accompagnes et tu es patient. Sois juste là. Les bonnes choses prennent du temps. Je ne suis pas un expert en film, mais j'ai regardé un petit peu les statistiques pour vous. Un film de 1h30 à 2h30, ça prend 6 mois. À être shooté. On compte que 1h30 à 2h30 de film, ça prend 18 à 24 semaines à être shooté. On ne parle même pas du montage, là. Donc, on estime que pour un film, une équipe de tournage fait 2 minutes utiles par jour. Ça, c'est le genre de job, c'est pas pour moi, ça. C'est impossible, tu sais. Hey, on a fait une super journée, on a filmé 2 minutes 5. Je pense au Seigneur des Anneaux, tu sais. Il nous reste encore des années de tournage, là. Les gars, on annule les vacances, hein. On va essayer de prendre de l'avance. Ça demande de la patience et de l'engagement et de la minutie. On revient, on refait la scène. Non, 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 remets-toi. Non, le pied là, comme ça. Non, on recommence et tout ça. Ça demande de la patience. J'ai regardé un peu plus loin pour te donner une idée, il fallait en moyenne 5 jours de travail pour les 22 minutes d'un épisode de Friends. Chaque épisode de Friends que tu binge-watch en ce moment, ça prenait une semaine pour le faire de travail. C'était de la folie. J'ai regardé un peu les acteurs, ils découvraient le script le lundi. Ils répétaient le mardi et le mercredi. Ils faisaient une répétition générale devant les producteurs le jeudi et ils filmaient devant le public le vendredi. Donc même une fois qu'ils étaient tout prêts, ça leur prenait toute une journée de tourner devant le public pour les 22 minutes. Tu sais pourquoi je prends cette image, ou cette illustration, ou cet exemple? Parce que des fois, on veut des relations 22 minutes, nous. Des fois, on veut des relations Netflix. Regarde, je te vois au café, tu sais, après 2-3 minutes où j'ai appris à te connaître, tu me parles de ta vie, des choses profondes, de ton cœur. Ensuite, on pleure un moment ensemble au milieu de l'épisode et ça semble qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais juste après, j'ai la grande idée et je te déverse ma sagesse dans ta vie. Et puis là, tu dis, Yves, c'est incroyable, merci. Et puis, tu réponds et tu résous tous tes problèmes en un message. Et puis, à la fin, on rentre et on est tous les deux contents. Puis, bras dessus, bras dessous. C'est pas ça, le discipulat. Ça, c'est un épisode de Friends. Des relations qui font la différence, c'est autre chose. Ça prend du temps. C'est je te vois, on ne se comprend pas, je te demande pardon, tu me dis c'est pas grave, on se voit encore. Après tu me dis on peut se voir, puis je te dis je suis désolé, j'ai pas le temps pendant les 2 prochains mois. Puis après ces 2 mois, je reviens vers toi, hey, il s'est passé quoi depuis? Il faut catch up, il faut que je t'explique tout ça. Et puis après, à un bon moment, tu commences à voir les fruits de cette relation. On a lu un tout petit peu de l'histoire d'Esther, puis j'ai envie de t'encourager à lire plus, tu verras la permission, tu peux lire le chapitre 4 en entier, tu vois toute la notion de la permission que je t'ai parlé. Mais au tout début, j'ai lu dans le chapitre 2, chaque jour, Mardoché venait. Et des fois, on se dit, c'est un bon gars, Mardoché. Mais est-ce que tu sais qu'on estime que c'est entre 8 et 12 ans, entre le moment où Esther est arrivée au royaume, là, dans le harem, et puis le moment où elle est devenue reine? Maintenant, tu relis chaque jour, Mardoché débarquait. C'est quoi cette patience-là? Je vais venir tranquillement. En plus, c'était à l'époque, hein, pas de Uber, rien. J'arrive tranquillement. Je pense que plusieurs fois, parce qu'il y a des éléments dans l'histoire qui nous font croire, est-ce que je peux voir Esther? Non, tu ne peux pas voir. Ok, merci. Seigneur, protège ma fille. Garde-la. Je ne peux pas la texter, on n'a pas de téléphone portable. Le lendemain. C'est possible que je vois Esther? Ouais, mais t'as que 2 minutes, pas de problème. Esther, comment ça va? Où est-ce que t'en es? Ok, écoute, on n'a pas long, je prie pour toi, on prie tous pour toi, et on croit en toi, vas-y, courage. Je rentre à la maison. Et tu fais ça pendant 9 ans. 9 ans. Si on veut voir l'œuvre de Dieu à Lausanne, ça va prendre des gens qui sont prêts à entrer dans ce type de relation. Ici à l'église, on aime dire un truc, on veut faire la vie les uns avec les autres. Puis j'ai envie de te dire, on n'est pas du tout pressé à grandir numériquement. C'est trop bien, on aime ça et puis on est challengé par ça aussi, puis on va faire ce qu'il faut pour accompagner la croissance numérique. Mais si tu t'assois ici puis tu restes seul, ça ne change rien. C'est un bon départ au passage. C'est cool que tu sois là. Puis c'est bien que tu puisses vivre des choses avec Dieu. Mais c'est juste les premiers steps. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Puis ce plus pour toi, il sera disponible quand tu rentreras en relation avec des gens. Il y a 3 semaines, 4 semaines, on a fait des baptêmes ici. 8 personnes qui ont été baptisées. Come on. Come on. 8 personnes baptisées, 8 contents. OK. Les autres, on vous expliquera une prochaine fois. Il y a eu ces baptêmes. Et sur ce jour-là, il y avait du monde pour les célébrer, il y avait du monde pour les entourer, il y avait du monde pour... 3 semaines plus tard, qui est encore auprès d'eux? Et j'accuse personne, là. Qui prie encore pour eux? Qui prend des... Hey, comment ça va depuis le baptême? Est-ce que tu as bien vécu cette journée? Est-ce qu'il y avait un défi? Est-ce que je peux me tenir dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce que quelqu'un leur a demandé, comment ça se passe la lecture de la Bible? Parce que moi, quand j'ai commencé la foi, c'était difficile de lire la Bible. Est-ce que tu voudrais qu'on lise ensemble la Bible ? Comment ? Vous savez, pendant longtemps dans les églises, on a prié pour le réveil. Seigneur, Seigneur, touche les gens. Seigneur, envoie des gens. Et plus j'avance, plus je me dis, mais est-ce que nous, on écoute ce que Dieu nous demande de faire ? Je suis en paix avec cette prière. On a dit, on veut venir ici, on veut commencer une église pour que tout Lausanne puisse entendre et expérimenter l'amour de Dieu. Le but n'a pas changé. On veut que tout Lausanne puisse entendre et expérimenter l'amour de Dieu. Mais je crois que ça va te prendre toi. Toi aussi. Toi aussi. Puis ça va prendre des gens qui sont prêts à vivre des relations d'un nouveau type. Des gens qui vont être d'accord de dire « Je viens ici pour être encouragé, pour être challengé, puis pour ressortir, puis vivre des relations d'un type nouveau. » Ça va prendre toi qui arrives demain au travail. Et puis tu sais, on a tous Alexandre au travail. Alexandre. Ce collègue un peu bizarre. Ce collègue qui, tu sais pas pourquoi, il vient toujours devant ta face. Puis ça va prendre de dire, Alexandre, comment tu vas en fait ? Puis ça va prendre après, Alexandre, est-ce qu'on irait boire un verre ensemble ? Si t'es une fille, dis pas ça, Alexandre. Si t'es une fille, va avec Alexandra plutôt, parce que tu connais pas encore les intentions d'Alexandre. Mais ça va prendre de revenir avec quelqu'un ici, puis dire, écoute, j'ai ce collègue-là. C'est difficile, mais je veux l'aimer. Ça va prendre que plus personne ici dit « je suis seul ». Je le disais, moi c'est mon plus grand challenge pour vous. Ayez des relations qui font la différence. Ayez des relations qui font la différence.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.romelausanne.ch.